Ce qui m'a le plus frappé dans la tribune de Dr. John Moussoussa, c'est à quel point la dépendance extérieure de la RDC reste ancrée dans son histoire coloniale. On voit encore aujourd'hui que l'économie du pays dépend largement de l'exportation de matières premières sans réelle transformation locale.
Si l'on observe les chiffres, plus de 90% des recettes d'exportation proviennent du secteur minier, tandis que certaines provinces demeurent pratiquement enclavées et n'en tirent aucun avantage. Cette inégalité territoriale attise les tensions et accentue la fragmentation.
Cette fragmentation est également liée à la faiblesse des institutions. Avec des structures administratives plus solides, la redistribution des richesses serait plus équitable, même dans un contexte dominé par l'extraction.
Tant que les institutions demeurent fragiles, les élites urbaines continueront de capter pouvoir et ressources au détriment des régions rurales. Ce déséquilibre entretient un cercle vicieux qui approfondit les fractures sociales et politiques.
On peut aussi observer que cette fragmentation facilite l'ingérence d'acteurs extérieurs. Par exemple, les fluctuations des cours mondiaux du cuivre ou du cobalt ont un impact direct sur la stabilité économique du pays, ce qui n'est pas le cas dans des économies plus diversifiées.
Mais alors, est-ce qu'on doit considérer ces divisions comme une fatalité? Ou bien est-ce qu'il existe des exemples où la diversité territoriale a été transformée en force pour bâtir un projet national cohérent?
À quel point l'absence d'une vision nationale cohérente a ouvert grand la porte aux influences extérieures, jusque dans les décisions budgétaires pourtant les plus stratégiques?
Les données sont révélatrices. D'après l'Observatoire de la gouvernance, plus de 60% des projets structurants engagés depuis 2000 ont été initiés ou financés par des partenaires étrangers, souvent sans véritable alignement avec les priorités définies localement.
Un processus de consultation nationale à lui seul ne suffit pas à dépasser les clivages régionaux et ethniques. Lorsque chaque groupe défend avant tout ses propres intérêts, le consensus produit reste souvent superficiel et peine à transformer réellement les rapports de force.
Sous d'autres cieux, des dialogues nationaux réguliers ont été organisés, mais la véritable clé a résidé dans l'implication de la société civile et des médias, évitant ainsi que la vision du pays ne soit accaparée par l'élite politique.
Les médias jouent un rôle de relais et de pédagogie. Une étude de l'UNESCO de 2022 montre que dans les pays où la presse locale a été associée à la formulation de politiques publiques, l'adhésion citoyenne a augmenté de 30%.
Le défi consiste à empêcher que ces processus soient récupérés par des acteurs politiques cherchant à imposer leur propre agenda sous couvert de consensus. Sans garde-fous solide, le risque de manipulation demeure élevé.
Pour qu'une vision nationale soit légitime, il faut des mécanismes transparents, des débats ouverts et des garde-fous contre la récupération. Sinon, on retombe dans le piège des slogans sans impact réel. En 2022, plus de 80% des exportations de la RDC provenaient du secteur minier, mais malgré ces chiffres records, 72% de la population vit toujours dans l'extrême pauvreté. On touche là un paradoxe criant entre richesse du sous-sol et précarité généralisée.
C'est effectivement un paradoxe, mais il s'explique en partie par la structure même de l'économie d'extraction. Quand la valeur ajoutée est créée à l'étranger, le pays reste dépendant de la volatilité des prix mondiaux. Par exemple, la chute du prix du cuivre en 2015 a entraîné une contraction du PIB de plus de 2% en RDC, alors que les exportations minières étaient pourtant en hausse sur le long terme.
Dans le secteur des batteries électriques, l'idée d'une transformation locale à grande échelle reste encore difficile à concrétiser. Les infrastructures actuelles et le niveau de stabilité politique ne permettent pas, pour l'instant, d'attirer des investissements industriels d'envergure. Sans progrès significatif sur ces deux fronts, la montée en chaîne de valeur restera limitée.
La question de la transformation locale est centrale. Certains projets pilotes, comme la zone économique spéciale de Kolwezi, tente justement d'attirer des usines de pré-traitement du cobalt. Mais pour que cela fonctionne, il faut aussi investir dans la formation technique et garantir un environnement réglementaire stable.
En termes de diversification, il existe des exemples ailleurs en Afrique. Le Botswana, par exemple, a réussi à rapatrier une partie de la taille des diamants, ce qui a doublé la valeur ajoutée locale en 10 ans. Mais la RDC part de plus loin, notamment à cause du manque d'infrastructures de transport et d'énergie.
La volonté politique ne suffit pas, il faut également repenser en profondeur les partenariats avec les multinationales. Tant que les contrats demeurent déséquilibrés, la transformation locale restera marginale et cantonnée à des initiatives symboliques plutôt qu'à une véritable stratégie industrielle.
Voici l'enjeu. En l'absence d'une stratégie industrielle cohérente et d'incitations fortes, la RDC demeurera enfermée dans un modèle purement extractif. La sortie de cette logique passe par une articulation claire entre investissement, montée en compétences et renégociation de contrats plus équitables afin que la richesse du sous-sol bénéficie réellement à la majorité. Parlons de la proposition de pacte éducatif. On parle souvent de ressources naturelles, mais miser sur l'éducation comme levier de transformation, c'est ambitieux. Pourtant, sans une réforme profonde, difficile d'imaginer une main-d'œuvre adaptée à l'industrialisation ciblée évoquée dans l'article.
Si on regarde les chiffres de l'UNESCO, moins de 60% des jeunes Congolais achèvent le cycle secondaire. Sans investissement massif, le pacte éducatif risque de rester symbolique. Mais la règle d'or sur les revenus miniers pourrait dégager des fonds. Certains pays africains ont doublé leur budget éducatif en canalisant mieux ses recettes.
Compter sur la manne minière reste illusoire tant que la transparence budgétaire demeure un défi majeur. Avec une gestion opaque, les ressources ne parviennent ni à l'éducation ni au développement industriel. Avant d'engager de grands chantiers, il est indispensable d'établir des mécanismes de transparence et de reddition de comptes capables de sécuriser l'usage réel des fonds publics.
C'est un véritable dilemme. Mais attendre des conditions idéales risque de paralyser toute action. Des projets comme les corridors logistiques peuvent justement produire un effet de levier rapide. En reliant les zones minières au port, on améliore simultanément l'accès à l'école, aux services et au marché pour des millions de Congolais.
À condition que la décentralisation soit effective. Selon les données de la Banque mondiale, moins de 20% des budgets locaux sont réellement exécutés par les provinces. Sans autonomie financière, les corridors risquent de rester des projets sur papier.
Et la professionnalisation de l'armée ? Sans sécurité, difficile d'attirer des investisseurs ou de stabiliser l'Est. Mais si on priorise tout, on ne priorise rien. Par quoi commencer pour créer un impact visible ?
Il faudrait cibler deux ou trois mesures à fort effet multiplicateur, comme la transparence budgétaire et le pacte éducatif, tout en lançant des pilotes sur les corridors logistiques. L'enjeu, c'est de montrer rapidement que le changement est possible. Même à petite échelle, l'effet immédiat de la gratuité de l'enseignement primaire, 4 millions d'enfants supplémentaires à l'école depuis 2019, c'est colossal. Mais la question reste entière. Comment transformer cette avancée quantitative en progrès qualitatif durable ?
Les chiffres sont éclairants. Dans plusieurs régions, le taux d'achèvement du primaire plafonne autour de 70% malgré la hausse des inscriptions. Cela montre que l'accès ne suffit pas. Il faut investir dans la formation des enseignants et adapter les programmes pour limiter le décrochage scolaire.
Est-ce que la solution passe uniquement par l'État ? Si le secteur privé et la société civile ne sont pas impliqués, le financement risque d'être insuffisant. Et puis, qui garantit que la qualité suivra si on multiplie juste les écoles ?
La solution pourrait résider dans des partenariats hybrides. L'État définit le cadre, tandis que les ONG et les entreprises locales apportent ressources et innovations pédagogiques. Dans les zones rurales, où les besoins sont particulièrement spécifiques, cette combinaison peut produire des résultats plus rapides et mieux adaptés.
Des exemples concrets existent. Dans certains pays, des programmes de mentorat ou de soutien scolaire cofinancés par des fondations privées ont permis d'améliorer de 15% le taux de réussite en lecture en moins de 2 ans. Cela montre que l'investissement dans le capital humain produit des résultats rapides et mesurables.
Miser uniquement sur l'innovation risque d'accentuer les écarts entre écoles urbaines et rurales. Pour garantir l'équité, toute innovation doit s'appuyer sur un minimum de standardisation afin que chaque élève, quel que soit son lieu de scolarisation, bénéficie des mêmes conditions essentielles d'apprentissage.
Garantir à chaque enfant non seulement une place à l'école, mais aussi un environnement d'apprentissage de qualité, quel que soit son lieu de vie. C'est là que la coordination entre acteurs publics et privés devient stratégique. L'accès à l'énergie demeure le principal verrou pour lancer des zones industrielles pilotes en RDC. Même en présence d'incitations fiscales attractives, l'absence d'électricité fiable freine les investisseurs. Le point essentiel est clair. Sans infrastructure énergétique solide, toute ambition de transformation locale reste au point mort.
C'est confirmé par les chiffres. Selon la Banque mondiale, moins de 20% de la population congolaise a accès à l'électricité. Pour une filière comme les batteries électriques, qui nécessite une chaîne de valeur intégrée, ce déficit énergétique limite la compétitivité face à des voisins comme la Zambie ou l'Afrique du Sud.
Attirer des investisseurs étrangers grâce à des exonérations fiscales peut facilement reproduire les mêmes logiques extractives si aucun cadre n'impose une transformation plus poussée sur place. Lorsque les entreprises continuent d'exporter des matières seulement semi-transformées, la dépendance au marché extérieur persiste et la montée en valeur ajoutée reste limitée.
pour casser ce cycle, il faut des partenariats qui imposent un transfert de compétences et une part de production réservée au marché local. Par exemple, dans l'agroalimentaire, certains projets pilotes exigent que 30% de la production soit écoulée en RDC, ce qui stimule la demande intérieure et crée de l'emploi.
Un autre levier, c'est la certification et la traçabilité. Dans la bijouterie légale, la RDC a commencé à tester des labels pour l'or extrait de manière responsable. Cela permet d'accéder à des marchés à plus forte valeur ajoutée, tout en limitant les circuits illicites qui minent la fiscalité nationale.
L'État a vraiment les moyens de contrôler ces filières. Si la gouvernance reste faible, les incitations risquent d'être détournées. Ne faudrait-il pas conditionner les avantages fiscaux à des audits réguliers et à la publication des contrats ?
Absolument, la transparence est essentielle. Mais il faut aussi que le secteur privé local soit associé dès le départ pour éviter que les multinationales captent tous les bénéfices. Le vrai enjeu, c'est de créer un écosystème où le Made in Congo devient synonyme de qualité et d'innovation, pas seulement de matières premières. En dépit de la règle constitutionnelle sur les 40% des recettes, certaines provinces arrivent à lancer des projets innovants, alors même que les transferts sont irréguliers. Ça pose la question, est-ce que la créativité locale compense vraiment le manque de moyens ?
Dr John cite l'exemple du Kasaï dans sa tribune. En 2023, la province n'a reçu que 18% de la rétrocession prévue, d'après les données du ministère des Finances. Malgré cela, elle a instauré un système de suivi participatif des budgets locaux qui a permis d'identifier des doublons dans les dépenses et d'économiser près de 200 000 dollars. Cet exemple montre que la performance ne dépend pas seulement des fonds transférés, mais aussi de la transparence et de l'implication citoyenne.
Ce type d'initiative peut facilement être récupéré par des réseaux locaux de clientélisme si le contrôle citoyen n'est pas suffisamment structuré. Dans ce cas, le risque est simplement de déplacer le problème du centre vers la périphérie sans améliorer la gouvernance réelle.
La stabilité et la prévisibilité des transferts constituent la pierre angulaire du système. Dès que les provinces savent exactement quelles ressources elles recevront, elles peuvent programmer leurs actions et rendre des comptes plus efficacement. À l'inverse, tant que les règles restent incertaines ou détournées, les pratiques clientélistes trouvent un terrain fertile.
Il existe des modèles où la performance conditionne une partie des transferts. Par exemple, certaines régions du Sénégal reçoivent des bonus si elles atteignent des objectifs de gestion. Ce type de mécanisme pourrait renforcer la responsabilisation sans pour autant recentraliser le pouvoir.
Lier trop strictement les fonds à la performance comporte le risque d'exclure les provinces les plus fragiles qui partent déjà avec un handicap structurel. Une approche uniquement fondée sur la performance peut donc accentuer les inégalités territoriales au lieu de les réduire.
Assurer un socle minimal de ressources pour toutes les provinces tout en stimulant l'innovation et le contrôle citoyen. L'équilibre est délicat. Mais sans cette base, la décentralisation risque de n'être qu'un slogan sans portée réelle. La réforme des phares d'essai reste inachevée malgré les annonces. On parle souvent de désarmement, mais sur le terrain, la confiance envers l'armée nationale est loin d'être restaurée.
En chiffres, c'est flagrant. Selon l'OCHA, il y a 6,9 millions de déplacés internes en 2024, principalement à cause de l'insécurité persistante. Plus de 100 groupes armés sont actifs dans la région, ce qui rend toute tentative de stabilisation extrêmement complexe.
Mais est-ce que la justice transitionnelle peut vraiment fonctionner si les populations locales n'y voient qu'un outil politique ? Si les auteurs de violences ne sont pas poursuivis de façon crédible, pourquoi les communautés croiraient-elles à un nouveau contrat social ?
La justice locale doit être à la fois visible et rapide. Les chantiers d'emploi pourraient servir de levier pour réintégrer d'anciens combattants, mais sans un minimum de sécurité, ces initiatives restent fragiles et peinent à durer.
La question des ressources est tout aussi centrale. La formalisation des activités économiques, en particulier minières, pourrait générer des fonds capables de soutenir le financement de la paix. Mais, pour l'instant, l'économie informelle demeure dominante et une grande partie des recettes continue d'échapper à l'État, ce qui limite fortement sa capacité d'action.
Si la volonté politique fait défaut, est-ce qu'on ne risque pas de tourner en rond ? Même avec des projets pilotes, tant que les élites locales ou nationales profitent du statu quo, les obstacles structurels à la paix demeurent.
Sans articulation claire entre sécurité, justice et développement, chaque levier reste isolé et perd en efficacité. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit progressivement grâce à des résultats concrets, visibles et ressentis par les communautés. La façon dont certains portails de données ouvertes restent largement sous-utilisés, alors qu'ils pourraient transformer la relation entre citoyens et institutions. On voit bien que la transparence ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas d'une appropriation par la société civile.
Prenons l'exemple du budget participatif à Kinshasa en 2022. Moins de 15% des citoyens interrogés savaient que les données étaient publiées en ligne, selon une enquête de l'Observatoire de la dépense publique. Cela montre que la publication proactive ne garantit pas l'accès ni la compréhension.
La société civile ne peut contrôler efficacement l'action publique que si l'État facilite l'accès à des données exploitables et si les médias disposent des ressources nécessaires pour enquêter. On parle beaucoup de transparence, mais la réalité politique du Congo impose des limites concrètes qui restreignent la capacité des acteurs indépendants à exercer ce rôle de vigilance.
L'expérience des audits citoyens à Lubumbashi a montré que, malgré les résistances administratives, la mobilisation locale peut contraindre à la publication de contrats publics. Le point essentiel est clair. Lorsque les citoyens s'organisent, ils obtiennent parfois davantage de résultats que les grandes campagnes nationales.
C'est vrai, mais il faut rappeler que la RDC a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en 2007. Et pourtant, selon le dernier rapport, plusieurs entreprises minières n'ont toujours pas publié leurs contrats. Cette situation montre à quel point la volonté politique demeure déterminante pour faire de la transparence une réalité plutôt qu'un engagement de principe.
La transparence dépend autant de la pression citoyenne que de la volonté politique. Mais ces démarches peuvent rapidement devenir de simples vitrines sans impact réel si elles ne produisent pas de résultats tangibles. Lorsque les avancées sont trop lentes ou partielles, le risque de décourager les citoyens est important, ce qui affaiblit la dynamique de contrôle démocratique. Seule une combinaison de volonté politique, de mécanismes crédibles de suivi et de retombées visibles peut éviter cet essoufflement.
Pour que la transparence débouche sur la confiance, il faut des mécanismes de suivi accessibles, des relais médiatiques solides et une implication concrète des citoyens dans l'évaluation des politiques publiques. Sinon, la publication des données reste un exercice formel, sans effet sur le contrat social. Un simple chantier visible dans un quartier peut profondément modifier la perception des habitants envers l'action publique. Lorsque les promesses prennent forme de manière tangible, même modestement, la confiance commence à remonter.
C'est intéressant parce que, selon une étude de la Cour des comptes de 2022, 68% des citoyens interrogés affirment qu'ils jugent la parole publique peu crédible, surtout quand il n'y a pas de suivi indépendant. Les audits externes, par exemple, ont montré une réduction de 15% des retards de paiement aux PME dans les collectivités qui les pratiquent.
Ces gestes visibles ne suffisent pas à eux seuls, à inverser la spirale du cynisme. Lorsqu'un chantier est lancé mais s'éternise, la déception qui en résulte peut renforcer la méfiance. La véritable garantie contre les effets de façade réside dans la continuité des actions, la reddition de comptes et la capacité de l'État à terminer ce qu'il entreprend. Seule cette constance peut restaurer une confiance durable.
C'est la régularité des engagements tenus. Par exemple, à Clermont-Ferrand, la mairie publie chaque trimestre un tableau de bord des promesses réalisées, consultables en ligne. C'est pas spectaculaire, mais ça crée une routine de redevabilité.
Dans les territoires où le paiement des PME est systématiquement effectué sous 30 jours, on observe une hausse de 12% de la participation citoyenne aux consultations publiques. La transparence sur les délais, même imparfaite, change la donne.
C'est aussi une question de culture interne. Tant que les agents publics ne sont pas eux-mêmes évalués sur la tenue des engagements, la tentation du discours restera forte. Est-ce qu'on a des exemples où la culture de la preuve s'est vraiment imposée ?
À Mulhouse, ils ont mis en place un système où chaque projet municipal est audité par un comité citoyen tiré au sort. Les résultats sont publics et les élus doivent répondre aux questions en direct. Voici le point à retenir. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit par des preuves répétées, visibles et vérifiables. La difficulté à passer d'une addition de bonnes intentions à une vraie architecture d'avenir, on parle souvent de réforme, mais concrètement, comment fait-on pour que ce « oui commun » ne reste pas un slogan ?
Les projections montrent que le triplement du PIB d'ici 2043 ne sera possible que si les politiques publiques s'alignent sur des priorités claires et mesurables. Selon la Banque mondiale, chaque point supplémentaire de cohérence institutionnelle peut accélérer la réduction de la pauvreté d'environ 0,5% par an. Cette relation souligne à quel point la qualité de la gouvernance conditionne la trajectoire économique.
Mais est-ce que la discipline collective ne risque pas d'étouffer l'innovation individuelle ? Si tout le monde doit suivre la même ligne, comment éviter l'uniformité ou la démobilisation ?
Il ne s'agit pas d'imposer une uniformité, mais de créer des symboles fédérateurs. Par exemple, une journée nationale de l'engagement collectif ou un programme pilote dans lequel chaque région choisit une réforme prioritaire à mettre en œuvre permettrait de donner un cadre commun tout en respectant les spécificités locales.
On peut également s'inspirer de pays qui ont réussi ce type de virage. L'Estonie, par exemple, a misé sur la digitalisation intégrale de ses services publics, ce qui a renforcé à la fois l'efficacité et la transparence. Ce genre de mesures fortes incarne concrètement un changement de cap.
Pour le docteur John, pour éviter le fatalisme, il est essentiel que les citoyens perçoivent des résultats rapides, même symboliques. Sans ces signaux concrets, le pacte de lucidité risque de demeurer théorique et de perdre sa force mobilisatrice.
Voilà l'essentiel. Il ne suffit pas de formuler des objectifs ambitieux. Encore faut-il les traduire en gestes concrets, visibles et partagés. Le véritable défi consiste à convertir la lucidité en action collective et à faire de chaque avancée une victoire commune. Merci à toutes et à tous pour cet échange. Gardons en tête que l'avenir se construit par des choix assumés, portés ensemble.